Capitolo 1er. Nous lirons les versets 6, 7 et 8. 6, 7 et 8. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen.
Amen.
Toujours même avertissement, si je répète beaucoup certaines choses, ne m'en veuillez pas, mais c'est nécessaire. L'apôtre Pierre nous en a donné l'autorisation, il l'a fait lui-même.
Eh bien, soyez-le, il est formidable que cela ait été, par conséquent, mérité, ne méritera une beaucoup d'attention, beaucoup de soif, de désir, de puiser dans un texte très concis, une pensée pourtant très étendue, très large. Jusqu'ici, nous avons vu dans le commencement de cet évangile, les cinq premiers versets, apparaître la révélation d'une parole. Je ne dis pas parole de Dieu pour faire la distinction entre cette parole personne divine et puis parole de Dieu. Nous entendons souvent, nous appliquons souvent cette expression, cette désignation à l'écriture même. Il faudrait d'ailleurs dire la parole de Dieu écrite, car la parole de Dieu est vivante. Mais pour notre commodité, je vais donc rester à ce mot de parole. Nous avons vu apparaître la parole comme une personne. Une personne divine qui était avec Dieu, mais qui était Dieu. Cependant, elle est dans ce texte-là distinguée de Dieu le Père. La distinction est assurée. Nous avons vu qu'elle se prolonge. Dans tout l'évangile de Jean, nous pourrions dire dans toute l'écriture, puisque dans le psaume 45, dans les livres hébreux notamment, nous voyons Dieu parler à une personne qui est envers lui et qui se nomme aussi, qu'il nomme aussi Dieu. Ce Dieu, au Dieu, sa voix. Nous avons vu cela. Parole, principe de vie, indispensable lumière des vivants, qui a été refoulé par une humanité adoptant un autre concept que celui de Dieu. Et alors, les ténèbres sont venues sur la terre comme quelque chose qui a brisé, qui a interrompu l'œuvre de Dieu. Dans les versets 6, 7 et 8, nous avons aussi beaucoup à prendre. Après l'exposé concis donc sur la parole qui est une personne divine, voici, dans le déroulement intentionnel du récit, parce que le récit ne va pas n'importe où, n'importe comment, il est dirigé, orienté par une intention, eh bien, voici trois versets, les trois versets 6, 7 et 8 que nous avons lus, et qui nous parle d'un homme, de Jean, Jean le Baptiste, Jean Baptiste, qui est aussi appelé, vous le savez, le précurseur. L'évangéliste Jean est ici en train de nous conduire vers l'incarnation de la parole qu'il vient de dédier et qu'il lui faut mentionner, nous allons voir la chose se justifier, il lui faut mentionner l'homme dont la mission a été de servir de témoin à la parole venant d'enfer. Tout à l'heure, il va nous dire que la parole vient d'enfer. La parole est cette chair. Mais auparavant, il va nous dire comment cette parole a été reconnue sur la terre. Par le moyen d'un témoin. Jean, vous savez que la publication du nom de Jean est Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et nous voyons ici dans le premier verset, vu d'un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ce n'est pas pour rien que l'évangéliste lui-même a fait Jean, son nom était Jean. Ce qui veut dire, son nom signifiait Dieu de grâce. Et ainsi, voyez combien il peut être le précurseur qui va révéler l'ouverture d'une dispensation nouvelle ou d'une ère, si vous voulez, qui sera celle de la grâce. Désormais, Dieu fait grâce. Et Jean a été, vous le savez, a eu ce nom, Jean-Baptiste a reçu ce nom, de par la volonté de Dieu, puisque c'est un homme qui est venu vers son père Zacharie, pour lui donnera la vie, et qui lui donnera le nom de Jean. C'est-à-dire Dieu fait grâce. Et ici, Jean l'évangéliste et l'apôtre dit son nom est Jean. Attention, et quand on disait cela, eh bien, dans les gens de l'époque, on savait très bien ce que cela voulait dire. Tout de suite, dans un nom, on discernait le sens, la portée de ce nom. Dieu fait grâce. Voilà donc l'ouverture d'une ère qui sera celle de la grâce. Au verset 7, je vous ai dit, il vint pour servir de témoin. Il faut comprendre ici, il fut suscité par Dieu. Il vint. Ça veut dire il fut suscité par Dieu. Il vint au monde avec une mission unique, une mission extraordinaire. Extraordinaire, la mission de Jean-Baptiste est quelque chose de magnifique, quelque chose qui peut même encore maintenant justifier notre adoration à l'égard de Dieu, n'est pas de voir qu'il fait des choses semblables avec des hommes. Une mission donc extraordinaire qui sera celle de servir de témoin et de rendre témoignage à la lumière. C'est lui qui va dire celui-là, eh bien, c'est Dieu. Voilà, voilà Dieu parmi nous. C'est quelque chose, ça. C'était quelque chose. Aussi, il est donc que nous regardions dans le chapitre premier de Luc ce qui nous est dit de Jean-Baptiste. Par exemple, un petit peu de ce qui nous est dit, chapitre 1er, verset 10, dans Luc. Toute la multitude du peuple était en dehors, en prière, en dehors du temple, à l'heure du matin. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Zacharie qui était le sacrificateur. Apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des martins. Zacharie fut troublé en le voyant. Ne savent pas faire un vergueur, disant. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Attention, plusieurs en grec, cela signifie un nombre important. Ce n'est pas quelques-uns seulement, c'est un nombre important. Par exemple, Christ est mort pour plusieurs, pas pour quelques-uns seulement. Plusieurs même signifie, dans la traduction du grec, une foule de gens. Il sera pour moi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront pleinement. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne fera ni pain ni cœur en mourant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer le Seigneur un peuple bien disposé. Voilà la mission de Jean-Baptiste, qui, vous le savez, avait été annoncé par le dernier prophète en Israël, c'est-à-dire Malachie, quelques 4 siècles avant la venue du Seigneur, au chapitre 3 de Malachie. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans mon temple le Seigneur que vous cherchez et le messager d'Alliance. Ça, c'est la parole c'est celle, n'est-ce pas? Mais, avant d'elle, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Ça, c'est Jean-Baptiste. Donc, il vint, on peut dire qu'il vint, au monde, puisqu'il avait été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. C'est le cas unique de la chose. De cette chose. Rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Alors que, n'est-ce pas, il s'agissait là d'un être en gestation tout à fait inconscient. Elle reçoit la plénitude dans cette inconscience. Et au fur et à mesure qu'il va grandir et croire, l'évangéliste Luc d'ailleurs nous parle de cette croissance de Jean-Baptiste, il la met même un peu en parallèle avec la croissance du Seigneur, et bien au fur et à mesure que cet enfant croit, n'est-ce pas, il se révèle en effet que la plénitude du Saint-Esprit est là sur lui et en lui. Il va pour servir de témoin. Et il nous est dit que c'était un homme envoyé de Dieu. Envoyé de Dieu. Eh bien, nous rencontrons cette expression ici, nous n'allons pas la laisser passer, sans signaler son importance. Envoyé de Dieu, c'est en effet la chose essentielle, indispensable, pour toute mission dans le service de Dieu. Être envoyé. Et chers amis, qui que nous soyons dans l'œuvre de Dieu, dans la foi, qui que nous soyons, il convient, il importe essentiellement que nous fassions absolument aucune chose, pour laquelle nous ne serions pas envoyés. Et je dis cela non pas seulement à ceux qu'on appelle en général des serviteurs de Dieu. On a mobilisé un peu l'expression serviteur de Dieu pour ceux qui ont des ministères. Bon, des ministères, ce sont des choses pratiques qui sont dévolues à certains. Mais moi, je ne veux pas, n'est-ce pas, que contrairement à l'Écriture, l'expression, l'idée de serviteur de Dieu soit mobilisée pour ceux qui ont ministère, parce que tous sont des serviteurs de Dieu. Et tous doivent l'être. Sans quoi, vous n'auriez pas besoin d'un baptême de l'Esprit. Si c'était pour rien faire, vous n'avez pas besoin, pour rien faire, pour rester assis sur des chaises, n'est-ce pas, ou pour rester dans sa maison tranquille, vous n'avez pas besoin du baptême de l'Esprit. Alors, n'est-ce pas, tous sont serviteurs, pas dans le service des ministères, mais dans le témoignage, nous aurons l'occasion de le voir. Ainsi, attention, c'est donc une consigne générale. Ne rien faire, absolument rien faire, qui ne nous soit demandé par Dieu et pourquoi nous soyons réellement envoyés de Dieu. Bien sûr, ce que nous avons à faire prendra place dans le cadre du ministère de Jésus, c'est-à-dire dans le cadre, si vous voulez, de l'alliance nouvelle. Ça, c'est dans le cadre de cette alliance, dans le cadre de l'évangile, des actions qui prennent part à l'évangile, n'est-ce pas, au progrès de la parole de Dieu dans ce monde, c'est là, dans ce cadre-là, que s'inscrira notre travail, toujours. Mais il donne à chacun ses ordres et à chacun sa tâche. L'évangile de Marc le signale bien. Il faut donc être envoyé. Et si on n'est pas envoyé, chers amis, eh bien, que l'on fasse quelque chose, c'est la chair qui le fait. Ah, ça, si l'on ne perdait pas de vue de l'âme, ça, on s'éviterait bien des mécomptes. Et puis, l'œuvre de Dieu irait tellement mieux. Mais aussi, n'est-ce pas, si nous n'avons rien à faire, pourquoi nous ne sommes pas envoyés, il faut donc que quand nous faisons quelque chose, nous soyons envoyés, mais il faut savoir quelles sont les œuvres préparées d'avance pour lesquelles Dieu nous envoie. Comme j'ai été envoyé, nous aurons l'occasion de voir ça, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. Et cela, c'est à tout le monde. Moi aussi je vous envoie, tout ici c'est envoyé, même s'il n'a que reçu que la petite chose, là, il n'a reçu, n'ayant une petite capacité, mais donc, il a reçu un talent, une vie, seulement, il doit la faire valoir. Mais il faut être conscient, et vous voyez, n'est-ce pas, qu'elle est déjà, qu'elle sera déjà le grand objet de notre prière personnelle à Dieu. Il faudrait que nous apprenions bien à ordonner nos prières. Il faudra demander à Dieu, Seigneur, et demander souvent, Seigneur, quelle affaire, quelle est ma tâche en ce monde, que dois-je faire, as-tu quelque chose pour moi, et Dieu nous mettra à cœur, si nous sommes fidèles, bien entendu. Jésus, par exemple, remarquez dans l'évangile, particulièrement dans cet évangile de Jean, c'est une chose tout à fait remarquable. On voit que Jésus insiste sur sa qualité d'envoyé. J'ai été envoyé de Dieu. Vous vous êtes en bas, mais moi je suis en haut. Et j'ai été envoyé par mon Père. Il s'appuie là-dessus, sur cette qualité d'envoyé de mon Père. Et il ajoutera même ceci : les gens que je fais, elles sont mal moi. Oh non, elles sont mal moi. Et pas du tout les hommes que j'ai conçus, que j'ai voulu, que j'imagine moi-même. Non, pas du tout. Ce sont les hommes que j'ai fait au Père. Le Père m'a confié. Il me les a confiés. Les paroles que je vous dis, ce sont les paroles du Père. J'ai été envoyé pour cela. Pour un objet précis. Et là, Jésus lui-même, ça insiste sur ses caractères de son œuvre. Il est celui qui opère à titre d'envoyé de Dieu et dans le cadre de sa mission, quand il aura devant lui quelqu'un qui lui demandera quelque chose, et ce quelque chose est en dehors de la mission que le Père lui a confiée, il refusera le Père. Selon si au dernier moment le Père lui dit, eh bien fais-le quand même. C'est le cas de cette femme syrophénicienne, n'est-ce pas? Je l'ai été envoyé contre l'interdit de la maison d'Israël. Tu demandes quelque chose, toi qui es en dehors du peuple, tu demandes quelque chose qui n'est pas à son heure. Ce n'est pas à son heure, ce n'est pas le moment. Moi, je suis sur la terre, j'ai été envoyé contre l'interdit de la maison d'Israël. Je ne peux pas déborder ma mission, je ne peux pas t'accorder cela. Mais comme la foi est si grande, et comme la foi plaît à Dieu au-dessus de toute chose, eh bien, du haut du ciel, le Père dit au Fils, c'est bon, donne-lui quand même. Ah, le Père est souverain, c'est lui qui détient la souveraineté. Et le Fils dit, eh bien, alors qu'il se soit fait comme tu veux. Mais vous voyez, c'est pas le souci de rester dans les limites de sa mission. Donc, tout ce qui est fait par l'initiative d'homme, sachez-le, l'initiative, entendons-nous, n'est pas, vous pouvez avoir de l'initiative dans le cadre de la mission, mais attention, pas une initiative qui passe d'entrée des vues de l'homme. À ce moment-là, c'est la fête. Et Dieu ne veut pas de la fête. Il n'en veut pas.
parce qu'on le sait, n'en veut pas. Il ne payera pas, il retirera sa bénédiction immédiatement. Nous avons ici des futurs serviteurs dans le sens de ministère. Nous avons ici notamment deux de nos frères qui se destinent au ministère. Eh bien, qu'ils retiennent bien tout ça, qu'ils n'agissent pas sur des initiatives qui leur seront propres, qu'ils sachent que serait alors la chair, et que Dieu immédiatement se détourne de ça. La chair ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Il faut donc cette mission d'envoyer. Il faut en être sûr, il faut en être certain, il faut donc prier pour cela, il faut donc se préparer, être prêt, et attendre que Dieu dise, eh bien, va, laisse-toi, va, être envoyé, et être envoyé, cela suppose une confiance réciproque entre Dieu et son envoyé. C'est ce que nous voyons ici dans toutes les écritures. J'aime bien, et c'est une chose à quoi je vous invite, étudier les écritures dans leur ensemble. Nous étudions cette partie très étroite du commencement de l'évangile de Jean, mais nous ne l'étudions pas en méconnaissance de tout l'évangile, de toute l'écriture. Et nous nous rappelons, vous voyez, quand c'est utile de lire fréquemment, lire et méditer, bien sûr, fréquemment l'écriture, parce que nous avons besoin d'avoir dans la mémoire à notre disposition à tout moment pour méditer sur un point précis. Nous avons besoin d'avoir le souvenir, la connaissance de tout le reste. Par exemple, en ce moment, pouvons ne pas nous dire Dieu et Moïse. Mais il s'agissait comme un seul homme. Dieu et Moïse, je dis un seul homme. C'est l'expression, ne pas prêter cette qualification d'homme à Dieu, mais il s'agissait comme un seul, si vous voulez, ça. Dieu, il disait à Moïse, tu sais, ton peuple, que tu l'as fait sortir du pays d'Égypte. Et bien, il s'est corrompu. Ton peuple, que tu l'as fait sortir, il s'est corrompu. Et puis Moïse se retournait vers Dieu quand il défendait ce peuple. Seigneur, ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Mais qu'est-ce qui a fait sortir le peuple? C'est Dieu ou c'est Moïse? Mais c'est tous les deux. C'est tous les deux. Dans une collaboration étroite, vous êtes, dit l'apôtre Paul, vous priez avec Dieu. Pas tout seul, avec Dieu. Vous voyez donc la nécessité impérieuse d'être envoyé, d'être conscient de la mission pour laquelle on est envoyé. Et à ce moment-là, c'est à dire vraiment cette confiance, cette collaboration entre Dieu et l'envoyé qui est indispensable, faute de quoi, eh bien, le christianisme devient du vent. Et il est devenu du vent parce que les hommes ont oublié cela et sont partis de l'air. Et c'est la chair qui a pris la place de l'esprit. Envoyé de Dieu. Il y a donc là quelque chose d'important et de fort. Et je répète, pour chacun de vous, comme pour chacun des véritables et authentiques enfants de Dieu, il y a des œuvres préparées. Alors là, demandez-les, questionnez le Seigneur. La prière est faite pour cela. Questionnez-les. Vous avez quelque chose à faire. Et combien il serait dommage que, arrivant devant le tribunal de Christ, car nous comparaissons tous devant le tribunal de Christ, pas seulement pour avoir des choses bonnes et des récompenses, mais pour tirer les leçons de notre travail, de la protection des biens du Seigneur. Eh bien, ce serait dommage d'arriver là, de s'entendre dire, eh bien, je t'avais préparé des œuvres, il y avait aussi cela à faire, que tu aurais dû faire. J'ai plusieurs fois voulu te faire connaître tes œuvres, mais tu étais prêtes tous les côtés, tu allais tous les côtés, tu donnais de la tête partout, tu prenais des initiatives, tu courais, tu prenais la course à cheval, n'est-ce pas? Et nous savons pas, en fait, ce n'est pas la course à cheval qui. C'est pas le galop du cheval qui a conquis l'œuvre de Dieu. Tu allais tous les côtés, tu étais dispersé. Et tu ne m'as jamais entendu, tu n'as jamais pris soin, pris garde à ce que j'avais à te dire, tes œuvres que j'ai préparées pour toi, tu n'es pas parfait. Tu as manqué à le faire. Alors tu es tombé comme à travers le feu, mais tu n'as pas fait mes œuvres. Ah, c'est triste ça, n'est-ce pas? Le Seigneur, retenez ça, retenez bien ça. Jésus, dans ce qu'il dit ici aussi, est un témoin. Un témoin qui rend témoignage à la lumière. Il va pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière. Témoin, c'est la qualité de Jean, et le témoignage à la lumière, c'est le cadre de sa vie. Et nous pouvons dire ceci, premièrement, Jean est qualifié. Il est envoyé à titre de témoin. Bon, premièrement, qualification. Deuxièmement, cette qualification a un objet précis. La mission d'un Abraham, la mission même je remonte encore avant la mission d'un Noé, la mission d'un Abraham, la mission d'un Moïse, la mission d'un Josué, la mission d'un David, etc. Eh bien, à chacune de ces missions, à son caractère et son objet propre, elles ne sont pas les mêmes, ces missions. Elles ont chacune leur objet. Eh bien, donc, Jean est qualifié, premièrement, deuxièmement, cette qualification, un objet précis, je rappelle, il donne à chacun ses dons. Chacun, il indique à chacun sa tâche. Il y a une tâche pour chacun, évangile de Jean, de Marc. Troisièmement, Jean, qui est qualifié, qui a un objet, connaît l'objet précis de sa qualification, troisièmement, Jean remplit sa mission, qu'il fasse donc qu'il a fait. Ça, c'est ça. Voilà. Trois choses qui sont importantes pour nous. Être qualifié, donc être envoyé. Savoir pourquoi on est envoyé. Et troisièmement, eh bien, avoir ce sens dévorant qu'avec Jésus qui nous poussera à accomplir pleinement notre mission. Le témoignage, là il faut aussi que je m'arrête sur cette notion de témoignage. Chers amis, cette notion de témoignage, maintenant que nous venons de voir celle d'envoyer, n'est-ce pas? Cette notion de témoignage, elle est fondamentale dans la parole de Dieu. Absolument fondamentale. Nous découvrons là les méthodes de Dieu. On voit aujourd'hui beaucoup d'évangélistes parler de méthodes modernes, etc. Mais prenons clairement un peu la méthode de Dieu. C'est celle-là qu'il faut prendre, c'est celle-là qui produit, n'est-ce pas d'une autre. Eh bien, il y a une notion tout à fait fondamentale de attacher à l'idée de témoignage. Et je vais vous en parler un peu. D'abord, disons ceci, c'est que foi, la foi et le témoignage s'apportent ensemble, quoi d'autre? La part de l'homme, c'est la part de l'homme. Tout le reste, c'est la part de Dieu. Mais la foi et le témoignage, c'est ensemble la part de l'homme. Foi et témoignage. À la loi et au témoignage. Disait le prophète Ésaïe. À la loi, c'est-à-dire, croyez, n'est-ce pas? Croyez, foi et témoignage. À la loi et au témoignage. Si l'on ne dit pas cela, eh bien, l'œuvre de Dieu ne s'accomplira pas, disait le prophète. À la loi et au témoignage. Et nous pouvons dire maintenant, à la foi et au témoignage. Si l'on ne dit pas ça, si on n'a pas entendu, eh bien, ça ne s'accomplira pas. La foi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la foi, pouvons dire que c'est un pouvoir. Un pouvoir intérieur, de l'être intérieur, un pouvoir qui est donné à l'homme de saisir le témoignage. La foi et le pouvoir de saisir le témoignage des paroles et des actes de Dieu. Des paroles et des actes de Dieu. La foi est donc le pouvoir donné à l'homme de saisir. C'est un destin. La foi ne s'exerce pas n'importe où, n'importe comment. Elle s'exerce à l'égard d'un certain témoignage qui comprend des paroles qui est apportée par des paroles et des actes. Paroles et actes. Je vous en prie de écouter ça, arrêtez un petit peu vos choses. Nous avons vous donner tout de même quelques versets bibliques à la Bible de ce que je viens de vous dire, parce que c'est très beau d'affirmer des choses, il faut quand même les avoir, hein, et nos preuves, les écouter. Eh bien, regardez 1 Corinthiens 1, 6. 1 Corinthiens 1, 6. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur. Voyez-vous, le témoignage de Christ. Témoignage de Christ, les paroles, les actes de Christ. Le témoignage de Christ, c'est que nous ne sommes pas dans l'idée de doctrine, là. Attention, nous ne sommes pas dans l'idée de doctrine, mais dans l'idée de témoignage très différent de l'idée de doctrine. Eh bien, le témoignage, donc, de Christ a été solidement établi. Voilà, n'est-ce pas, les gens, dont la foi, les gens corinthiens, là, Paul est resté 2 ans chez eux, eh bien, le témoignage de Christ est établi. Leur foi est établie, et leur foi a pu embraser tout le témoignage de Christ. 1 Corinthiens 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de savoir que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Quelle a été la mission de Paul? Annoncer le témoignage de Dieu. C'est ça qu'il faut apporter, le témoignage de Dieu. Pas des discours, pas toutes sortes de choses plus ou moins raisonné, n'est-ce pas, mais le témoignage de Dieu. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 2, là, il s'agit de notre Jean, encore notre apôtre Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a dit. Voyez-vous, il a attesté. Jean est venu en témoin lui-même, et Jésus, l'apôtre. Jean-Baptiste était témoin de la lumière, nous allons y revenir, mais là, Jean, n'est-ce pas, se dit le témoin du témoignage de Christ, tout ce qu'il a vu. Et puis, au chapitre 19, et verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il le dit, c'est un ange, il s'agit d'un ange là, garde-toi de le faire, un ange est en présence de l'ange, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont de la doctrine? Ce sont des dogmaticiens, ces gens-là? Pas du tout, ils ont le témoignage de Jésus. Parfait, une chose positive, le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et c'est encore une de ces choses qui, pour l'avoir oublié, eh bien, le christianisme est sorti de ferraille, a dévié, est parti dans l'aventure humaine, n'est-ce pas, aventure charnelle, pour avoir oublié notamment des choses comme celle-là. Le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie, il faudrait qu'on vienne frapper à la porte du pape et lui dire, mon ami, me réveille-toi ce matin sur cette vérité-là, voyons. Voyons qu'est-ce que tu fais de tout ton appareil. Mais regardez donc, c'est le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Tout ce que tu pourras nous dire avec ta théologie, avec ta liturgie, avec ton droit canon, tout cela n'a aucune importance, tout cela est vain. Mais regardez donc, c'est le témoignage de Jésus qui est important. C'est ça qu'il faut répandre en véritable témoin. Et alors, je voudrais aussi vous conduire dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5. Un passage important. 1 Jean, chapitre 5, et verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, ou s'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que celle-ci est dans son fils. Celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Eh bien, voyez, le verset là. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Parce que, il y a, dans l'Écriture, deux témoignages, ou si vous voulez, deux niveaux de témoignages. Il y a le témoignage courant de la Bible est inspirée, bien sûr, mais la Bible est un livre de témoignages, pas autre chose qu'un livre de témoignages. Et nous recevons le témoignage des hommes, il s'agit des écrivains sacrés, là. Nous le recevons, bien sûr, et le témoignage des hommes, il est vrai, parce qu'il est inspiré. Mais si nous le recevons, en plus forte raison, allons-nous recevoir le témoignage de Dieu, qui est plus grand quand ça vient directement de Dieu. Or, il y a quelque chose qui est venu directement de Dieu, c'est que cela, celui qui a le fils à la vie, celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas. Dieu ne l'a pas prononcé à travers des hommes, mais il l'a prononcé directement. Il ne s'est pas servi de ses serviteurs des prophètes, il ne s'est pas servi même de son Christ pour le dire, il l'a dit lui-même, du haut des cieux. Eh bien, voilà donc ce qu'est le témoignage. Et si la Bible est un témoignage, d'ailleurs c'est le sens de testament, le mot testament est le même mot que le mot alliance, n'est-ce pas? Et il y a souvent d'ailleurs un jeu entre les deux significations du mot qui tantôt veut dire testament, tantôt veut dire alliance. Mais le sens particulier de testament, c'est un témoignage. Un témoignage. Bah, la Bible est un témoignage. Et cela nous montre toute l'objectivité de la révélation. Dieu veut que ce soit un témoignage. Et quand on dit témoignage, eh bien, immédiatement, n'est-ce pas, on suppose des faits, on suppose des réalités, n'est-ce pas, qui sont remplies, qui sont communiquées par le moyen du témoignage. Donc, c'est une objectivité qui est là devant nous. Mais, posons-nous cette question pour en revenir à Jean-Baptiste. Pourquoi fallait-il que la lumière des hommes, dans toute cette lumière, c'était la vie et la lumière des hommes, et puis nous voyons par la suite que lumière et parole sont confondues. D'ailleurs, Jésus dira après, je suis la lumière du monde. Donc, parole et lumière se sont identifiés, un mot étant pris pour l'autre. Eh bien, c'est pourquoi je vous ai dit que la notion de lumière est extrêmement difficile, délicate. Il faudra demander à l'Esprit de Dieu de la construire dans nos cœurs, comme de toutes les notions d'ailleurs dont nous avons besoin. Mais pourquoi fallait-il que la lumière est un témoin? La lumière tout de même des cieux, c'est la parole de Dieu, c'est la parole, je veux dire, la parole, n'est-ce pas? La parole personne divine. Et pourquoi faut-il à Dieu un témoin? Eh bien, évidemment, pourrait se dire ceci, mais la lumière. Jésus nous est montré comme le soleil de justice. Ah, le soleil n'a pas besoin d'autres témoins lui-même. Hein? Nous allons quelque chose, quand nous voyons apparaître que ces nuages s'écartent un petit peu, que beau temps arrive, ben, nous voyons bien qu'il est là le soleil. Hein? Et puis nous sentons le soleil. Nous sentons. On n'a pas besoin qu'on nous dise. Hein? Et vous, et il n'y a pas d'incrédule. Parce que on ne trouverait jamais sur la terre, n'est-ce pas, un individu quelconque qui viendrait vous dire, au moment où le soleil resplendit quelque part, que le soleil n'est pas là. Bon. Et ça n'existerait pas, il n'y a pas d'incrédule. Parce que le soleil, c'est alors le témoin, il témoigne de sa présence lui-même. Mais, attention, c'est que ce soleil de justice, ce soleil de justice, autrement dit, la lumière qui est la parole, qui est personnelle, devait apparaître en ce monde sous le voile épais de la chair. Sous le voile de la chair. Et déjà Moïse avait lancé du fond des arbres cette parole. Il viendra un prophète comme moi. Je vous l'ai dit. Il est plus grand Moïse, celui qui est annoncé. Oui, mais un prophète comme moi ne sera pas plus effrayant que lui aussi. Vous n'êtes pas effrayé de moi. Eh bien, il ne sera pas plus effrayant. Il n'aura même pas cette lumière sur le visage que Moïse a eu pendant un temps. Enfin, il viendra un prophète comme moi. Celui-là, vous l'écouterez. Et le livre d'Ésaïe, le prophète d'Ésaïe, nous dit bien en nous annonçant la parole, en nous annonçant le Messie, il nous dit bien qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est l'emploi d'un passé qui a valeur de futur. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ésaïe 53:2. Et la parole qui vient dans le nom se dépouille. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé comme une proie d'être égal à Dieu, il est plus trop physicien. Mais il a pris quoi? Une forme de serviteur et devenu semblable aux hommes. Il vient sous le manteau épais d'une chair qui n'a rien de remarquable, mais qui est semblable à toute autre chair humaine. Alors, là, le soleil de justice venant ainsi cassé, ainsi dépouillé de sa gloire, comment voulez-vous qu'on le reconnaisse s'il n'y a pas un témoin? Ils sont un témoin. Lorsque cette même parole reviendra dans la gloire de Dieu, elle n'aura pas besoin à ce moment-là de témoin, parce qu'elle vient dans la gloire du Père, n'est-ce pas? Elle viendra à la seconde venue du Seigneur, au retour du Seigneur, la parole reviendra dans la gloire, elle n'aura pas besoin de témoins. Et c'est pourquoi l'Apocalypse nous prévient, chapitre 1er, verset 7, tout seul le verra. C'est-à-dire, tout seul le verra dans l'évidence de ce qu'il est, de sa divinité, dans l'évidence de sa gloire. On n'aura pas besoin à ce moment-là de témoins. Tout œil le verra, le reconnaîtra, même l'œil des incrédules, l'œil des marxistes, l'œil des matérialistes. Ah, ils seront là-dedans. Ah, il existe, celui qu'on a dit tout le temps. Il existe, il est pourtant là. Il est là. Ce sera évident. Ce sera éclatant. Mais ça, il n'aura pas besoin de témoins. Mais venant en dans ce dégoûtement, mais venant dans cet anéantissement selon le mot de Darcy, venant dans cet anéantissement, il lui faut un témoin. Et il faut que Jean puisse dire dans un groupe d'hommes, dire à ses disciples d'abord, regardez cet homme-là, oui, le troisième, là, celui-là, oui, c'est lui, l'agneau qui vaut que c'est celui-là. C'est lui. Il faut un témoin qui le connaisse et qui puisse le désigner aux autres. Et pourquoi ce témoignage? Eh bien, le verset 7 nous le dit. Afin que tous crussent par lui. Afin que tous crussent par lui. C'est-à-dire que tous crussent en la parole faite par le témoignage de Jean, et non pas, comme on a pu dire, que tous crus en Dieu par Christ, c'est la vie. Ah, ça, Jean, nous sommes ici que ça concerne Jean, n'est-ce pas? Jean, l'évangéliste d'ailleurs, écrira en ce qui concerne son propre témoignage, écrira quelque chose d'équivalent. Il dira par exemple à la fin de son évangile, mais ces gens ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. N'est-ce pas? Mais le témoignage de Jean-Baptiste, c'est de faire part en la parole venue en chair. Elle est dissimulée, la divinité est là, cachée, à l'étroit dans un temple qui n'a pas d'être là, il faut la dédier à l'attention de tous. Et alors, ici que tous crut par lui, nous voyons ici, chers amis, que Dieu attend une chose capitale, elle est là. Cette chose capitale, c'est la foi. Et pour lui donner à cette foi un objet, Dieu suscite le témoignage sur son envoyé, la parole. Et alors, comment, par ce témoignage de Jean-Baptiste, va commencer le temps de la marche par la foi et non par la vue. Et vous voyez comme l'intention y est. Afin, ça c'est le but de Dieu. Afin que tout crût par lui. Et il n'y aura pas autre chose que cela. Il faudra que cette foi soit reçue. Ça c'est le verdict de Dieu maintenant pour l'ère nouvelle qui s'ouvre là. L'ère de la grâce qui s'ouvre, eh bien, il faut que tout crût par lui. C'est la marche par la foi et non par la vue. Et ceci est encore appuyé au verset 8. Le verset 8 qui dit qu'il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Jean n'est pas la lumière. Bien sûr, c'est presque, on pourrait dire, superflu de dire. Mais si c'est dit, n'est-ce pas, c'est pour montrer que lui n'est pas la lumière. Lui, personnellement, n'est-ce pas, mais il a un rôle capital quant à la lumière, du côté de la lumière. Si lui était la lumière, il lui faudrait à lui aussi alors un témoin. Il faudrait qu'il y ait un témoin de Jean-Baptiste, un témoin qui serait son précurseur à lui aussi. Mais non, il est là pour rendre témoignage à l'air, à la lumière, et il ouvre, Jean-Baptiste ouvre l'air de la foi. C'est pourquoi sa mission est magnifique et grande. Nous laissons, n'est-ce pas, actuellement Jésus-Christ à part, que Jésus-Christ est unique, bien sûr. Mais regardons parmi les hommes, il n'en a pas vu de plus grand que Jean-Baptiste. Bah, cette mission est quelque chose d'extraordinaire. Regardez dans Luc, chapitre 16. Verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, l'ancienne dispensation, ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. C'est-à-dire use de la hardiesse de la foi, de la pénétration de la foi pour y entrer. C'est ça. Donc l'aide de la foi, c'est Jean-Baptiste. Ce témoignage de Jean-Baptiste ouvre l'air de la grâce et l'air de la foi. Il ouvre l'air de la foi et Jésus, voyez-vous, le reconnaîtra. Au verset, nous allons lire encore le verset 9 et le verset 10. Tant pis si vous mangez un peu en retard, vous ne mangez pas, c'est encore plus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout l'homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout l'homme. C'était la venue dans le monde de la lumière véritable. Il s'agit bien sûr
de la venue que tout à l'heure Jean a précisé, la venue en chair. Il s'agit de la venue en chair. Et ça, c'était la venue de la lumière véritable. Voilà l'objet du témoignage de Jean, de dire « Celui-là est l'agneau qui ôte le péché du monde, celui-là est Dieu. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers, mais ça, ce sera l'objet du témoignage de Jean. » Objet, d'ailleurs, qui avait déjà été annoncé par le prophète. Il faut que tout soit annoncé avant, bien sûr. Et Ésaïe, chapitre 8, verset 23, nous dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Attention, il y aura quelque chose qui interviendra. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses. Les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. N'est-ce pas? Voilà, cette lumière, donc, était la véritable question. Venant dans l'ombre, éclaire tout ça. Le prophète l'avait annoncé. C'est la lumière véritable en ce sens qu'elle est un standard. C'est cette lumière dont la vie a le plus grand besoin, celle qui vient de Dieu. Elle éclaire tout homme, ce qui veut dire elle est en mesure d'éclairer tout homme, puisqu'elle est cachée dans un temple sous le voile de la sphère, mais elle est en mesure d'éclairer tout homme. Je dis cela pour mettre une objection. Une objection infranchissable à une théorie qui s'appelle l'universalisme. Attention, mes amis, on est toujours, je vous disais hier, obligé de faire un petit peu d'apologie. Bah, toujours un petit peu, on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il y a de très mauvais courants qui se répandent dans le monde et il faut être prévenu, prendre garde. L'universalisme, c'est une théorie selon laquelle, en définitive, tous les hommes sont sauvés. S'ils étaient bien, mal, je dirais, ils finiront par être sauvés parce que Dieu est bon et amour, et puis que personne ne restera donc logé en enfer. C'est une théorie absolument fausse qui méconnaît la justice de Dieu, mais elle s'autorise notamment de déclarations comme celle-là. Elle s'autorise aussi d'une autre déclaration de Christ, par exemple, j'attirerai quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Hein? Alors, dit, voyez-vous, je n'ai pas dit que j'ai dit de faire famille. Voyez-vous, tout le monde est sauvé, n'est-ce pas? J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec un universaliste très compétent, un théologien universaliste, à Lille, il y a quelques années. Eh bien, donc, c'est une théorie absolument fausse, n'est-ce pas? Parce que on ne peut pas rester sur un seul verset. Si l'on isole un verset du grand contexte de la Bible, on peut faire dire n'importe quoi à la Bible. Mais il faut trouver l'équilibre de la révélation. Le Seigneur, ou l'Esprit de Dieu qui inspire l'Écriture, ne va pas se donner à ça de répéter à chaque fois les choses qui sont dites par ailleurs. Mais alors, ce serait un livre impossible à consulter que la Bible. Il faut que les déclarations soient laconiques, souvent, ne pas brèves, et qu'elles tombent, et qu'elles aient du tranchant. C'est pourquoi on ne va pas, n'est-ce pas, les entourer de toutes sortes de précautions oratoires. Mais allons à Jean 12. Jean 12, verset 38. Verset 48. Je suis venu comme une lumière dans le monde. C'est bien ce que dit Jean-Baptiste. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Attention, que quiconque croit en moi, il y a une condition. Elle est claire tout seul, mais à condition, bien sûr, c'est qu'il vienne à foi. Donc, vous voyez, l'universalisme n'est absolument qu'une hérésie. Dans le verset 10, nous avons lu « Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. » La parole vient dans le monde, en ce temps de Jean-Baptiste, en ce temps du témoignage de Jean-Baptiste. Et pour ça, elle était déjà. Elle vient d'être déjà. Elle vient d'une façon nouvelle, particulière, mais elle y était déjà. Et même ce monde dans lequel elle vient, mais c'était son œuvre. C'était son œuvre. Le monde a été séparé, c'était son œuvre. Or, chose inimaginable, chose qui montre combien les ténèbres emprisonnent l'esprit des hommes et les rend hostiles, les rend rebelles, combien le péché est d'une puissance terrible, il ne faut pas reconnaître. Pour en être délivré, il faut toute la force, toute la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, une chose donc inimaginable, le monde qui a été séparé ne l'a point connu. Le prophète Ésaïe dit, mais un âne, il connaît son possesseur, un peuple connaît son maître, mais mon peuple ne me connaît pas, ne me connaît pas. Chose, n'est-ce pas, révoltante, c'est une chose révoltante. Et il y a un parallèle. Là, je vais vous questionner un petit peu. Il y a un parallèle à ce que je viens de dire, ce verset 10, mais ce verset 10. Un grand parallèle dans l'Écriture, quel est parallèle dans l'idée, naturellement. Je ne parle pas des mots. Les parallèles dans les mots, il faut s'en méfier. C'est une question de traduction. Mais il y a un parallèle dans l'idée. Vous voyez, ça se répète aussi, la parole est vue dans ce monde, mais elle était déjà dans ce monde, et le monde est son œuvre, et si bien que les hommes devraient voir cela, et ils ne voient pas, et ils ne connaissent pas leur professeur, ils ne connaissent pas leur créateur, celui qui les a fait, celui qui a fait le monde où ils évoluent, ils ne le connaissent pas, c'est quelque chose d'inimaginable, quelque chose de révoltant, quelque chose qui est contre nature. Un parallèle. En deux outils. Romains 1, verset 18. Disons, Romains 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent justement la vérité captive. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, en effet, les perfections injustices de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme un œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. C'est pas un parallèle, ça, vous voyez. Le monde, n'est-ce pas? Et tout ce monde-là, que ce soit la terre, que ce soit les matériaux de la terre, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, parce que ce que Paul appelle aussi la création, eh bien, la création dont l'homme fait partie lui-même, mais elle crie son créateur, elle crie son auteur. Et les hommes sont inexcusables, pour que les ténèbres soient épaisses, pour qu'ils ne reconnaissent pas. Pas de droit qu'on a l'œil, qu'on a reçu depuis la création du monde, n'est-ce pas? Quand on lui considère en droit, le monde a été préparé et qu'il ne connaît pas. Vous voyez le parallèle? Et c'est un Paul qui dit cela, bien sûr, sous inspiration, mais certainement dans sa pensée, il a vu la même chose que Jean. Le monde a été fait par Dieu, par la parole de Dieu, et ça devrait normalement, mais parce que les hommes n'étaient pas égarés, cela devrait conduire à une évidence, à une certitude, n'est-ce pas, de l'existence de Dieu. On devrait voir Dieu dans cet ouvrage. Voilà ce que nous montre cet